Sixième histoire, le fatal étonnement de Guerriot. Le long des coudriers et des aulnes du sentier qu'il suivait pour la 15e fois déjà de la journée, l'écureuil Guerriot, une faîne entre les dents, sautait de branche en branche, les petites oreilles droites à peine pointant, l'œil vif, la queue en traîne retroussée ou relevée en panache, s'épanouissant juste au-dessus de sa tête comme un parasol gracieux. Sous son poids, les branches élastiques fléchissaient et se redressaient, giflant les prêles et les fougères, et lui, l'habile sauteur, le jongleur infatigable, profitant de l'élan qu'elle lui donnait en se redressant, détendait en même temps tous les muscles de ses jarrets et de ses reins pour se projeter plus haut et plus loin encore, comme une exhalaison des arbustes ou une balle que les sylvains enfants de la forêt se seraient tour à tour renvoyés, jouet joyeux et vivant. Il allait frétillant, tous les muscles bandés, bondissant très haut pour redégringoler presque jusqu'à terre, et toujours comme s'il avait été le prolongement multiplié de toutes les branches frôlées, on le revoyait dans toutes les trouées de soleil, semblant nager dans des lames de verdure, épaves joyeuses à la dérive d'un beau jour. Il revenait de la lisière de sa forêt, où il visitait les noisetiers et les hêtres, cherchant pour sa provision d'hiver les noisettes jaunes et les faines mûres, plus précoces là-bas qu'aux alentours de sa demeure. Le moment était venu de la récolte. Fini les journées entières de jeu dans les branches des sapins et des chênes, les poursuites continuelles, les cachettes aux fourches des arbres, les cabrioles fantastiques, les équilibres audacieux. La moisson annuelle s'annonçait, car bientôt tomberaient et pourriraient les fruits, bientôt l'hiver, le froid, les pluies, la neige le confinerait dans sa retraite caverneuse ou aérienne, car son logis d'hiver serait soit une anfractuosité de roc bien nettoyée, soigneusement matelassée de mousse et de feuilles sèches, distribuées en compartiments égaux, en greniers distincts où s'entasseraient côte à côte et séparées ses provisions diverses, soit une volumineuse boule à la charpente de bois maçonnée de feuilles empilées ou de mousse longue, consolidée de brindilles, qui la hérissait comme une petite forteresse bien abritée à la fourche solide d'un gros arbre inaccessible, un sapin de préférence. C'était là qu'il retournait à chaque voyage, une noisette ou une faîne dans sa petite gueule mi-fermée où saillaient les lames jumelles de ses grandes incisives. Une noisette, grosse, jaune, lisse, décoiffée de sa chaule, ou une faîne bien remplie, volumineuse et lourde, qu'il avait choisi dans sa cupule triangulaire éclatée, avec tout le soin dont le rendait capable son instinct de bête et sa sûre expérience. Il recommençait sitôt arrivé, toujours sautillant, toujours joyeux, après avoir rangé sa goulée dans son petit grenier, où l'hiver, bien calfeutré, il la reprendrait au fur et à mesure de ses besoins, et rejetterait au dehors les débris inutiles et encombrants, soit par une petite cheminée latérale, soit par l'ouverture principale, le boyau d'entrée qu'il pouvait ouvrir du dedans et renfermer solidement avec des matériaux résistants rejointoyés de mousse. Il avait fait ainsi la saison précédente et recommencerait chaque année après avoir laissé toute la saison chaude sa maison ouverte et vide, comme pour l'aérer de ce long hivernage clos et la retrouver toute saine à l'automne. Il avait passé la belle saison dans sa maison de campagne, une petite boule de mousse reconstruite chaque printemps, un pavillon vert suspendu à une fourche de chêne où il abritait ses annuels amours. Mais sitôt les petits élevés, partis, dispersés, il s'était laissé aller joyeux à vivre seul, en gaieté et sans souci sous le soleil, mangeant au jour le jour les fruits de la forêt, de ceux-là qui ne durent qu'un temps, s'aventurant parfois dans les prairies frontières pour s'y empiffrer de cerises qui ne se conservent point, et quelquefois aussi mais rarement, sanguinaires, saignants, dans leur nid ou sur les branches, où ils les saisissaient à l'improviste, les petits oiseaux. Le plus souvent, content du jour et de la vie, il sautait de branche en branche, tout son corps roux au vent, giclant éperdument comme une large étincelle de feu au moindre choc qui émouvait l'arbre sur lequel il se trouvait, ou comme une gerbe lumineuse que les pas du soleil auraient fait rejaillir des flaques miroitantes des frondaisons. Il mangeait là où il était, le plus souvent tout de même au même endroit, sous les hauts sapins qui faisaient un îlot sombre dans la mer sylvestre et où il retrouvait les joyeux compains. Il montait le long des grands fûts droits, dégarnis jusqu'en haut, qui ressemblaient aux mâts de cocagne naturels, dressés là en permanence pour une fête intime et forestière, au haut desquels les pives, dans les rameaux supérieurs, comme des prix s'offrant à l'audace des conquérants, pendaient, lourdes de la graine dont ils étaient friands. Ils y grimpaient, soit tour à tour, soit en se poursuivant avec des cris aigus, plus à l'aise le long de ces arêtes vertigineuses que sur le sol mou, où les longues griffes de leurs pattes entravaient leur marche hésitante. Et quand un rappel d'oiseau ou de bête arrivait à eux, ils dressaient leur petite tête au vent, écoutaient attentivement et filaient aussitôt dans la direction du bruit pour retrouver le jet Jaco, Margot Lapie, s'amusaient de leur caquetage, de leur courbette, de leur caresse ou de leur querelle. De haut les contemplant, ils s'établissaient le plus souvent dans les fourches des branches, la tête seule visible, la queue largement touffue, s'aplatissant sur le dos, ou voltigeant en éventail autour du corps pour tromper l'ennemi dont ils auraient pu craindre quelque attaque inopinée. Guerriot était ce jour-là sorti de la forêt. Il avait couru sur le mur de lisière aux grosses pierres moussues, patinées de hâles, effrayant les lézards qui se chauffaient au soleil et rentraient précipitamment dans leur retraite en le voyant filer la queue verticale, l'arrière-train en l'air, la tête basse, comme fuyant une correction. Il avait visité des noisetiers et des hêtres, choisi sa faîne et regagné par le chemin des branches, plus familier et plus commode, l'entrée de la forêt. Le sentier s'ouvrait comme un porche ténébreux, dont la voussure ogivale flamboyait dans le soleil, et dont le faîte, ainsi qu'un tablier de pont, jeté entre deux arêtes sombres, s'ourlait d'un parapet tout vibrant de lumière. Sur le sol battu comme une aire où le vent coulait en frais courant, clapotant aux feuilles des bords, d'immenses racines déchaussées par le passage des humains s'élançaient le coupant en travers et ressemblaient à des tronçons de serpents géants dont les nœuds auraient simulé d'étranges verrues et de qui la tête et la queue seraient restées enfouies dans un sinistre enlacement de ronces, de branches pourries et de feuilles mortes. Parfois, un grattement de rats frémissant dans les rameaux cassés et agitant de petits sautillements ce fouillis morbide et vénéneux avec le bruit d'une tête qui se lève ou d'une queue qui frétille, donnait plus encore à ces masses noueuses l'illusion sinistre de la vie. Des coudriers et des aulnes, en cet endroit moins touffu, avaient réussi à vivre et formaient un semblant de barrière lâche, à claire-voie, s'allongeant le long du sentier comme une chaîne souple, frêle, flottante, au maillon par endroits cassé d'une morsure de serpe et que venait heurter, de place en place, l'élan vigoureux et non contenu d'une branche basse de charme ou de hêtre. Le soleil, qui caressait les fêtes, cherchant comme un indiscret ami à s'insinuer dans le mystère familial du haut taillis, décochait d'espace en espace quelques rayons inquisiteurs qui venaient s'aplatir ou ricochaient sur la terre après s'être insidieusement faufilés entre les branches moins feuillues d'alentour, mais de temps à autre aussi comme si les grands vétérans de la forêt, responsables de ses destinées, eussent été soucieux de n'en rien laisser surprendre à un intrus, le vaste essor touffu d'un rameau de chêne, sentinelle avancée dans le ciel, s'étendait en haut comme une main pudique pour cacher cette espèce de nudité partielle à tout regard indiscret. Attentif au bruit, égayé d'un rayon de soleil, d'un vol d'oiseau, d'un bourdonnement de mouches, Guerriot s'arrêtait parfois au faîte d'un rameau balancé, saluant l'espace, défiant le vide, et repartait de plus belle, dans une détente fantastique de muscles, une explosion de nerfs, qui le faisait jaillir plus haut que son but sur lequel il retombait gracieux, en employant élastique des branches, les pattes en avant, la queue droite, les griffes tendues comme des crampons solides et sûrs. Justement, le sentier, silencieux à son départ, s'égayait d'un rappel de merle au pied du gros chêne. Qu'est-ce que pouvait bien vouloir cet ordonnateur austère, au frac éternellement correct, des concerts printaniers à cette heure du jour? D'ordinaire, c'était à l'aube et au crépuscule que son tcha-tcha régulier réclamait les autres oiseaux pour la consigne du jour ou le mot d'ordre de la nuit. Bizarre, ce bruit. Il faut voir. Et Guerriot se précipite. La petite tête enfoncée dans son cou comme un galopin faussement timide, se penchant vivement à droite, à gauche, en avant, de côté, pour découvrir, derrière les multiples rideaux de serge des frondaisons, le siffleur à bottes jaunes appelant ses confrères. Assez bas perché sur un rameau flexible, il se penchait nerveux, l'œil vif fouillant le vide, étonné de ne rien voir et de ne plus entendre, quand un grand chien roux, poussant des abois furieux, reniflant bruyamment le nez en l'air, arriva sous son arbre et l'effrayant, par son élan et ses coups de gueule, le fit jaillir de côté dans un envol éperdu en même temps qu'une rude voix humaine se faisait entendre et qu'une violente détonation étonnait la mer calme des feuilles, à peine ondulant sous la brise du matin. Et aussitôt, il sentit glisser tout autour de lui des sifflements aigus comme un vol de frelons irrités que le chien aurait lâché en l'air à ses trousses et qui passèrent en rafale subitement évanouies. Les oreilles hérissant leurs pinceaux de poils, la queue en bouclier sur le dos, les dents claquant de colère et de peur, il filait comme un trait, branchayant à toute allure, s'enroulant autour des arbres, rebondissant plus loin, en haut, en bas, de côté, dans une fuite éperdue, fantastique, pour faire perdre sa trace à l'ennemi aboyant qui l'avait épouvanté de ses cris et menacé de ses sifflements. Car Guerriot, n'ayant vu que le geste du chien, lui attribuait naturellement par un sentiment très droit de logique et le coup de fusil et le cinglement des plombs. Il regagna par un habile crochet sa boule de mousse où il déposa la faîne qu'il n'avait pas lâchée et fila se cacher au haut d'un arbre voisin, sondant l'espace au-dessous de lui et écoutant au loin les aboiements du chien qui s'en allait et dont le départ calma progressivement sa frayeur coléreuse. Comment ce lourd animal qui le menaçait de la terre avait-il bien pu faire pour lancer à sa poursuite cette rafale de sifflement qui lui avait fait, dans sa fuite, hérisser les poils et plier les reins? Mais plus rien ne troublait la forêt, et Guerriot repartit de nouveau à sa récolte, longeant le sentier accoutumé, où ses bonds brusques et impétueux semblaient casser des vitrages de verdure et favoriser l'espionnage du soleil qui se glissait aussitôt dans les failles ménagées par son complice. Plusieurs jours se passèrent ainsi dans la quiétude et le joyeux labeur d'une bonne récolte. Il redescendait son sentier, une noisette aux dents cette fois, pour la porter dans la case de son grenier appropriée à cette provende, quand il fut surpris par un claquement sec, accompagné de sons gutturaux qui le firent grimper tout droit au gros arbre sous lequel il passait. Arrivé aux premières branches, se sentant hors d'atteinte d'une attaque ordinaire, il fit brusquement halte et regarda à terre. Il y vit un étranger à deux pattes qui le considérait attentivement. Guerriot, aussitôt, se jeta du côté opposé à l'homme, dissimulant son corps derrière le fût du charme, et regarda à son tour lui aussi cet être bizarre, au pelage multicolore, prêt au premier geste de menace à sauter au large et à le semer ainsi qu'il avait fait pour le braillard des jours précédents. Mais l'homme ne criait pas comme le chien. Il ne faisait pas de gestes menaçants. Donc, il ne pouvait être dangereux. Un peu drôle, seulement, et d'autant plus que bientôt, il sembla diminuer de grosseur et s'affaisser sur lui-même. Il devenait de moins en moins menaçant et avait l'air tout apoltroni de sa rencontre. Alors l'autre, lentement, porta à son épaule un long tube sur lequel sa tête, comme morte, sembla tomber inanimée et l'éleva progressivement dans la direction de Guerriot, qui, nullement inquiet, le regardait faire sans bouger. Bientôt le tube s'immobilisa, et l'écureuil, face à face avec ce trou noir qui le regardait fixement et l'œil rond de l'homme rivé sur le canon qui le fixait aussi, sentit comme un malaise pénétrant et profond et un choc étrange en lui. Il aurait voulu fuir et ne voyait point de danger. Il sentait pourtant quelque chose d'angoissant qu'il ne comprenait pas, qui pourtant le menaçait et le liait à cet assemblage étrange que ses yeux ne pouvaient plus quitter, fascinés qu'ils étaient par ce trou fixe et sans paupières. Plus avant, sa tête anxieuse aux yeux plus fixes se penchait, attirée par le gouffre de ce regard vide et l'éclat flamboyant de l'œil qui semblait le surplomber. Ah, le grenier aux provisions, les belles noisettes jaunes, les faines bien pleines, les calmes journées de l'hiver bien au chaud dans le logis aérien, tranquille et sûr. Guerriot sent sa tête qui ne pense plus. Il faut fuir, fuir. Brusquement, il va secouer ce charme, tenter le geste, esquisser l'élan. Trop tard. Un immense éclair rouge jaillit de l'œil vide. Un saisissement, plus grand et plus fou, perce le petit crâne bossué et cingle sous le poitrail blanc le cœur chaud de la pauvre bête qui sauta et dégringola sur le sol, encore ou dans la grosse noisette jaune décholée qu'elle serrait plus fort entre ses petites mâchoires, raidies par l'étonnement suprême de la mort.